It's just such a joy to be here with you today.
C'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous ici aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de moi d'abord, de ma famille. Là derrière moi, il y a une photo de ma famille. Vous pouvez y voir ma super femme Brigitte, qui est l'étincelle de ma vie, qui l'a été pendant les dernières 30 ans. Brigitte est française, bien sûr. Et nos trois superbes enfants. Là, j'ai ma Zapette.
Mélanie,
qui a 30 ans. J'ai pas l'air si vieux, hein. Sean, qui a 28 ans. Et Lucille, 27. Et parce que nous sommes une famille bilingue, notre fille la plus âgée, elle enseigne en Suède, donc elle parle suédois, anglais, français et allemand. Notre fille cadette, Lucille, elle parle coréen couramment parce qu'elle travaille en Corée. Elle vient juste de débarquer à San Francisco pour des conférences aux États-Unis. Et elle aime beaucoup cette vie. Elle m'a envoyé une photo d'un billet de 50 dollars. Elle m'a dit, oh, j'aime bien les billets de Monopoly ici. Donc vraiment super heureux pour cette famille. Brigitte et moi, nous avons été élevés dans la foi catholique. Moi, en Irlande, dans une famille de 7 enfants dont j'étais le plus jeune. Et en Irlande, on entend parler de Dieu tout le temps. On part à l'école, on entend toutes les paraboles de la Bible, on prie. Vous faites votre première communion, qui est un gros événement, la confirmation. Donc je connaissais tout de Dieu, mais je ne connaissais pas Dieu. Et pour Brigitte, c'était un peu la même chose en France. Et à 23 ans, un pasteur missionnaire baptiste du Texas, qui s'appelait Craig Machin, il avait toujours ses bottes de cow-boy, c'est Santiago, et un costume à rayures. Et il est venu toquer à notre porte pour nous inviter à son église. Et son église, écoutez bien, le nom de son église, c'était dans la ville de Blarney. C'était l'église baptiste de Blarney. L'église biblique baptiste de Blarney. On est allé à cette église et il nous a vraiment montré ce qu'était la Bible. Et ça, il a parlé à nos cœurs. Et nous avons choisi de suivre Jésus. C'était il y a 23 ans. Et je serai toujours reconnaissant pour Craig qui est venu toquer à notre porte ce jour-là pour nous inviter à son église. Donc voilà d'où nous venons. Et je viens avec vous aujourd'hui avec deux casquettes. Je suis le secrétaire général de l'Alliance des Églises Chrétiennes Missionnaires de France, qui est donc la famille de l'Alliance Chrétienne Missionnaire est aussi dans le monde entier. On fait partie de l'Alliance Planétaire. Et également, je suis le secrétaire de Emerald Region, qui concerne l'Europe et le Moyen-Orient. Mon message aujourd'hui sera en deux parties. Je vais vous parler un petit peu de la famille qui est l'Alliance chrétienne missionnaire en France, dans le Moyen-Orient, partout dans le monde. Et dans un deuxième moment, je partagerai un message de Dieu à propos de connaître la volonté de Dieu alors qu'il nous guide sur ce chemin tous ensemble. Donc je vous transmets également les salutations de la famille des pasteurs de l'Alliance, pasteur Viguier qui est à Toulouse, qui va venir vous rendre visite l'année prochaine. Et je vous transmets également les salutations de mon église, Toulouse Ex-Internationale, qui est un peu comme la vôtre, avec des gens de toutes les nations qui se rassemblent avec Jésus au centre. Toutes les semaines, nous avons également une réunion de prière, comme vous avez ici. Et la semaine dernière, nous avions deux personnes qui ont prié en mandarin, d'autres en malgache. Avant cela, nous avons eu des gens d'une famille syrienne qui prie en arabe, tous ensemble, en unité, avec Jésus au centre. Et c'est ça l'histoire de l'Alliance, de la famille de l'Alliance. Parce que c'est de se rassembler et de toucher toutes les nations avec la bonne nouvelle, comme nous sommes appelés à le faire dans la Bible. Nous avions une carte de l'Alliance des Églises chrétiennes missionnaires en France, donc AECM. Ça a commencé il y a 41 ans avec 4 églises, et maintenant il y a 39 églises. Donc Dieu a vraiment béni notre famille en France. Il y a deux pôles principaux, un à Paris, un à Toulouse, et ensuite les autres églises sont dispersées sur le territoire français, Strasbourg là-haut, il y a également 3 églises en Guyane française, ou une en Guadeloupe, et une en Martinique. Donc on est vraiment sur toute la francophonie dans le monde. Et la prochaine diapositive, on verra que c'est vraiment une famille multiculturelle. Il y a 14 églises qui parlent français avec des gens de partout dans le monde. En Afrique, par exemple, des églises internationales qui parlent anglaise comme ici, Toulouse, Strasbourg et Paris. Il y a des églises chinoises, 6 d'entre elles, 4 églises vietnamiennes, 10 Hmong. Je ne savais pas ce que c'était les Hmong avant, mais en fait, ce sont des gens du Laos qui, après la guerre du Vietnam, sont arrivés en France, en Allemagne et aux États-Unis comme réfugiés. Et ce sont des gens merveilleux qui ont vraiment un cœur pour Dieu. Il y a une église cambodgienne et une église kabyle. Pour ceux qui ne savent pas, la Kabylie, c'est une région en Algérie. Une région montagneuse en Algérie. Donc il y a vraiment tellement de nations qui se rassemblent avec Jésus au centre. Ensuite, j'ai une diapo pour vous montrer comment les églises évangéliques sont en France. J'étais tellement encouragé d'entendre parler de la réunion de prière de l'Entente, avec des frères et sœurs qui se rassemblent pour la gloire de Dieu, c'est super, qui ne se concentrent pas sur leurs différences, mais qui se demande comment pouvons-nous bénir cette ville, comment pouvons-nous bénir Strasbourg, parce qu'il y a tellement de gens qui ont besoin, tellement autour de nous, qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire. Donc les évangéliques de France travaillent ensemble, et il y a un but, une vision qui est partagée pour que la France ait une Église évangélique par tranche de 10 000 personnes. Ça, c'est le but. Actuellement, c'est une église évangélique pour 33 000 personnes. Et donc, les couleurs les plus claires que vous voyez derrière moi, c'est il y a 0,1% de 0,1 église pour 10 000 églises. Ça veut dire que dans ces endroits-là, il y a une église évangélique pour 100 000 personnes. Mais comment est-ce que les gens vont entendre la bonne nouvelle à ce moment-là si on n'implante pas plus d'églises et qu'on parle aux gens? Donc il y a un grand besoin en France. Ensuite, nous avons, par exemple, en Alsace, on y est presque une église pour 10 000 personnes. On y est presque. Mais la France a vraiment besoin de... C'est un grand champ de mission. Si vous travaillez ici, vous faites des études, vous arrivez dans une autre ville et à vivre dans une autre ville, vous dites peut-être qu'on peut implanter une église. C'est vraiment, en tout cas, le besoin est là. Je voulais partager ça avec vous. Actuellement, il y a 2470 églises évangéliques en France et c'est un nombre qui augmente de 35 églises par an. Alors comment ça se passe en France? Ah non, Dieu est à l'œuvre en France. C'est vraiment, vraiment visible là-dedans. Donc, j'ai parlé de l'Alliance, maintenant de la communauté de l'Alliance. Donc l'Alliance mondiale, c'est presque 60 pays. Il y a plus de 22 000 églises. Et la plus grande église est aux Philippines. Il y a 350 000 églises et plus d'un million aux Philippines, il y a plus d'un million de croyants déjà et de membres. En tout, 6,3 millions de croyants dans l'alliance d'églises missionnaires dans le monde. Cette diapo ci vous montre que l'alliance est organisée en 5 régions. Donc Europe, Moyen-Orient, il y a une région Afrique du Nord, Amérique du Nord, pardon, Amérique du Sud, Afrique et Asie. Donc Europe et Moyen-Orient, c'est ensemble. Et nous décidons de faire en sorte que ces régions travaillent ensemble, s'encouragent les unes les autres, et on encourage les églises à travers le monde à travailler ensemble, d'une région à l'autre, à partager notre vision. Et nous sommes en train de mettre sur pied un projet entre l'Afrique et la France pour vraiment toucher les personnes qui sont victimes de la diaspora africaine, qui ont quitté leur terre natale, plein de jeunes gens qui viennent en France, par exemple, pour leurs études, qui se perdent un peu spirituellement. Pasteur Jean Kra, qui est de Côte d'Ivoire, que vous pouvez voir, et lui, il a à cœur de toucher les jeunes Africains qui viennent en France. Et donc on collecte des fonds en Afrique et en Europe pour essayer de concrétiser ce projet, pour rapprocher nos familles et renforcer nos églises en France. Donc c'est une des manières dont l'Alliance mondiale travaille. Et ça, c'est la région émeraude. C'est la région Europe et Moyen-Orient. Vous pouvez voir les deux plus gros endroits, ce sont les Pays-Bas et la Russie, où il y a plus de 80 églises. Et en Russie, avant 1999, il y avait zéro église. Le mur de fer est tombé, le mur de Berlin est tombé, et les chrétiens ont pu aller implanter des églises. Maintenant, il y a une église vivante en Russie. On a même été contacté par une jeune femme à Moscou qui fait partie de l'Alliance et qui a à cœur la France aussi. Elle va venir nous voir rapidement et nous aider ensuite à atteindre les gens en Russie. Dans notre église à Toulouse, nous avons un visiteur du Nigeria qui vient tous les dimanches, qui parle couramment le russe et qui a un diplôme dans aéronautique russe, qui maintenant fait son master en aéronautique à Toulouse et qui est content d'avoir trouvé une famille. Donc c'est vraiment incroyable ce que Dieu fait pour rapprocher les nations en mélangeant les gens. La mondialisation, c'est incroyable comment il nous amène tous ensemble pour être là où nous sommes. Mais c'est à nous d'aller à l'extérieur. Et aussi au Moyen-Orient, nous avons... Ce sont les plus vieilles églises. Les missionnaires sont allés au Moyen-Orient au début du XXe siècle pour implanter des églises en Irak, en Syrie, en Jordanie, au Liban et en Israël. Ils ont suivi avec foi la mission que Dieu nous a donnée. Et la diapo suivante, c'est Lamis et son mari Issam, leur fils Roger et André, qui est une famille Damascus, dont le pasteur a dû fuir à cause de la guerre, qui sont réfugiés à Marseille. Et maintenant, Lamis travaille auprès des musulmans pour apporter la bonne nouvelle chrétienne. Et c'est encore un exemple de la famille de l'Alliance qui travaille tous ensemble et qui rappelle à tout le monde qu'il y a un Dieu qui nous aime. La prochaine diapo, c'est une image de la Jordanie et du Moyen-Orient. Nous avons une église de l'Alliance à Mafraq, qui est juste près de la frontière de Syrie, où les réfugiés ont commencé à affluer en 2011. Et la ville de Mafraq s'est demandé, mais comment est-ce qu'on peut aider ces gens? Ils ont acheté des matelas pour eux, ils ont rassemblé l'argent qu'ils avaient. Et maintenant, il y a tout un ministère pour aider Les réfugiés, ils ont déjà aidé plus de 4000 familles. Mais ce qu'ils font, c'est pas seulement aider leurs besoins physiques, mais aussi leurs besoins spirituels. Ils vont rendre visite aux familles toutes les 3 semaines. Et quand on rend visite à quelqu'un au Moyen-Orient, c'est pas juste une demi-heure, c'est 2 ou 3 heures. On s'assoit, on parle, on boit du thé sucré, s'ils sont syriens. Et ils ne vous demandent pas combien de sucre vous voulez, hein. Ça va tout de suite dans la tasse. Donc ils rendent visite à ces familles. Et la plupart de ces familles ont une histoire terrible, difficile, des frères et sœurs perdus, des enfants tués. Et ils partagent la bonne nouvelle avec ces familles. Et à la fin de la visite, ils prient toujours au nom de Jésus. Et toutes ces familles, la plupart sont musulmanes, qui viennent de Syrie. Et après, ils reviennent les voir. Et là, ils leur disent, Jésus a répondu à nos prières. Et c'est juste incroyable. Dieu est au contrôle de tout ça. Il a ouvert ces gens pour qu'ils puissent entendre sa parole. Et cette église est vraiment petite, il n'y a que 40 personnes, mais ils sont vraiment à fond à partager la bonne nouvelle, à essayer de couvrir les besoins des frères et sœurs autour. Moi, j'ai eu la chance d'emmener une équipe pour une mission de courte durée, là-bas, l'année dernière. Donc là, c'est une image de mon équipe, c'était 9 femmes. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis retrouvé avec 9 femmes et j'étais le seul homme. Et quand j'étais dans la rue, les gens me regardaient, marchaient devant 9 femmes et ils se demandaient « Waouh, ce mec-là doit être riche, il a tellement de femmes !» Et non, c'était juste un groupe et on a passé un bon moment. C'est la porte du sanctuaire que vous voyez sur la photo. Et les femmes qui allaient faire l'école du dimanche, prier, préparer l'école du dimanche pour remettre leur cœur devant Dieu avant de prendre en charge cette tâche d'enseigner aux enfants. Et moi, je me suis dit, un barrage, mais ça c'est cool, je peux pas passer, mais je peux prendre une photo pour montrer comment elles prient et comment elles travaillent ensemble. Il y avait deux hommes jordaniens, parce qu'il y a également un centre d'entraînement. Non, pardon, ils étaient syriens. Parce que dans l'église, il y a aussi un centre d'entraînement pour apprendre l'anglais, l'informatique et d'autres compétences aux Syriens, aux réfugiés, pour qu'ils puissent après s'en sortir dans la vie et trouver un métier. Et donc ces deux hommes syriens, musulmans, ne pouvaient pas passer avec toutes ces femmes qui étaient en train de prier. Et une femme leur a dit, « Oh, vous pouvez aller... Vous pouvez passer par le côté, par la cour. » Donc, ils sont passés par la cour, je les ai suivis. Et comme ils sont des good Syriens, dès qu'ils ont été dans la rue, ils ont allumé une cigarette. Et moi, je suis sorti, j'aurais dit, excusez-moi, est-ce qu'on peut vous poser une question? Ah non, ils m'ont posé une question, j'ai dit oui. Et ils ont dit, qu'est-ce que faisaient ces femmes? Mais je leur ai dit, mais ils étaient en train de prier. Ils ont dit, on peut prier comme ça? Ben oui, nous, on peut parler à Dieu comme ça. Et pourquoi est-ce qu'elles priaient? Eh bien, parce qu'elles allaient enseigner les enfants à propos de Dieu et voulaient que leur cœur soit à la bonne place pour pouvoir partager le message de Dieu, lui parler à Dieu pour être sûr qu'elles étaient dans un bon état avant de servir. Et elles étaient là, waouh, et vous pouvez vraiment faire ça à n'importe quel moment? Et j'ai dit, mais oui, la prière, c'est entre vous et Dieu, vous pouvez lui parler. Donc c'est incroyable de voir comment l'impact que cette église a sur la communauté musulmane autour. Donc si vous avez un jour la chance d'aller en Jordanie, d'aller à Mafraq, ils ont toujours besoin de volontaires pour une semaine, 1 mois, 6 mois. Vous n'avez pas besoin de parler arabe, vous avez juste besoin d'avoir un cœur pour le service. Et si vous avez des questions sur l'une ou l'autre des choses que je vais vous partager ce matin, je serai content de répondre à vos questions. Vous pouvez me parler après. Et pareil, si c'est des questions sur le message que je vais vous partager, venez me parler, venez me trouver, je serai content de vous répondre. Parce que c'est pour cela que nous sommes ici, pour partager l'amour de Dieu avec vous et ce qu'il a mis sur notre cœur. Jésus est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, pour que nous soyons avec lui. Et nous voulons partager cette bonne nouvelle à tout le monde, pour que tout le monde puisse avoir une relation avec lui. Maintenant, je vais parler ce matin de marcher avec Jésus et connaître la volonté de Dieu. C'est quelque chose de vraiment important de rechercher la volonté de Dieu quand on doit faire face à des décisions importantes dans notre vie individuelle ou à notre vie d'église. Et c'est important de connaître la volonté de Dieu individuellement et pour l'église. La volonté de l'église pour son église locale. Et alors que nous faisons le voyage avec Christ, nous avons toujours des intersections auxquelles nous arrivons. Et avec votre église, vous êtes maintenant à une intersection, à un carrefour. Carl et Janet ont été appelés à un nouveau ministère aux États-Unis. Et ils ont été à une vraie bénédiction ici, je le sais. Je suis vraiment encouragé de voir l'impact qu'ils ont eu sur cette église. Et Dieu les a appelés à une nouvelle saison de leur vie. Mais en même temps, Dieu a appelé cette église à une nouvelle saison. Et c'est un moment de regarder vers le futur. Où Dieu veut que nous allions en tant qu'Église? Quelle est sa vision pour notre Église? Quelle est sa volonté pour cette Église ici? Et je peux vous dire une chose. Dieu a des plans, a des projets pour cette Église, de la même manière qu'il a des plans, des projets pour chacun d'entre vous. Et c'est pour ça que c'est important de chercher sa volonté. Et je voudrais vous dire que nous, dans les familles de l'Alliance des Églises chrétiennes missionnaires, nous vous encourageons, nous sommes là pour vous aider et vous accompagner sur ce chemin. Avec les discussions qu'on a eues hier soir à la réunion de prière, on a vraiment encouragé tout le monde, nous avons appris les uns des autres, que nous sommes rappelés que nous sommes vraiment plus forts tous ensemble. Et c'est ça qu'on recherche et qui se produit dans la famille de l'Alliance. Quand on est ensemble, on est plus fort. Quand on parle de l'entente ici à Strasbourg, c'est l'entente quand les églises viennent ensemble en tant que son église, en son nom. On peut avoir un impact incroyable, énorme. Et c'est important de connaître la volonté de Dieu. Et Jésus a dit que sa vraie famille, c'est ceux qui connaissent et font la volonté de son Père. Dans Marc, chapitre 3, 35, quiconque fait la volonté de Dieu est mon frère et ma mère, et mon père et ma mère et mon frère. Jésus dit que sa vraie famille est ceux qui connaissent et font la volonté de Dieu. C'est ce que nous voulons vraiment devenir dans l'Alliance. Donc ça nous amène à une question. La question est, comment est-ce que je peux connaître la volonté de Dieu pour ma vie et la vie de mon église locale? Et je vais partager avec vous quatre étapes faciles, simples pour répondre à cette question. Et la première, c'est la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, on peut entendre très souvent quelle est sa volonté pour nous. Dans Exode, chapitre 9, verset 16, il est dit, « Mais voilà pourquoi je t'ai suscité. C'est pour te montrer ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » C'est la volonté de Dieu que vous et moi proclamions son nom à travers toute la terre. Et c'est pour cela que nous avons été créés. Et dans Romains 12, verset 1, vous et moi sommes appelés à être des sacrifices vivants. Je vous encourage, mon frère et sœur, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ça, c'est votre vraie louange. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Hier soir, à la réunion de prière, François m'a dit, on a pu dire au revoir à Carl et Janet avant qu'ils partent. Et quand nous sommes arrivés à cet appartement, l'appartement où la chose avait été, les meubles avaient été emmenés, on arrivait à la fin, à la fumée des cierges, comme on dit. Le timing était impeccable, on arrivait quand il n'y avait plus rien à faire. Mais c'était une vraie joie de voir tous ces gens de toutes ces nations qui s'affairaient et qui aidaient les uns les autres, qui bénissaient Carl et Janet alors qu'ils faisaient ce nouveau pas de foi en quittant la France, et pour qu'ils puissent quitter la France avec sérénité. Et c'était beau de voir ces frères et sœurs qui travaillaient ensemble. C'était une vraie bénédiction. La prochaine fois, j'essaierai de venir plus tôt pour pouvoir aider plus. Mais ce n'était pas délibéré. Hein. On est arrivé à la dernière minute. Mais c'était vraiment une bénédiction de voir ce qui s'est passé hier. Donc, on doit être des sacrifices vivants. C'était de la louange. Et hier soir, c'était un sacrifice, les gens qui donnaient leur temps pour aider Janet et Carl. Non, hier soir, c'était la réunion de prière. La parabole des deux fils dans Matthieu. Dans Matthieu 21, Jésus fait des remontrances. Matthieu 21, 32. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret pour croire en lui. Donc Jésus leur fait des remontrances parce qu'ils ne se sont pas repentis et ils n'ont pas cru. Et ça, c'est important. La volonté de Dieu, c'est que chacun d'entre nous puisse se repentir et croire. Croire en lui. Et si vous n'avez pas encore fait le premier pas, qui est la repentance vers Jésus, je vous encourage juste à le faire. Et si quelqu'un a une question à propos de ce que ça veut vraiment dire de se repentir et de croire, venez nous parler après le service. Parce que c'est la première étape pour suivre la volonté de Dieu. Et dans Jean 1, 12, on apprend que tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12, for this is God's will for you in Christ Jesus. I can understand that some people have been wondering what does the future hold. Our pastor and his wife have said, nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Dieu est souverain, il est au contrôle, il va nous guider. Et c'est notre devoir d'obéir à sa volonté, de marcher avec foi, de s'avancer avec foi. Et il nous emmènera à la prochaine étape, et la prochaine étape, et de toujours le suivre. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Et ne soyez pas découragés, ne soyez pas sans énergie. Dieu vous aidera à chaque étape. Et dans 1 Pierre 2, chapitre 15, verset 15, en effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Et dans 1 Thessaloniciens 4, 3, on apprend que c'est la volonté de Dieu que nous soyons sanctifiés. C'est la volonté de Dieu que vous soyez sanctifiés, que vous évitiez l'immoralité sexuelle. Et dans Psaume 143, nous apprenons qu'il désire nous guider dans ses voies. 143, verset 10, on apprend « Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. » Donc Dieu n'essaie pas de cacher sa volonté pour nous, il veut se révéler à nous. Il nous a laissé beaucoup, beaucoup d'indices quant à sa volonté pour nous. Dieu a clairement dit, la parole de Dieu nous dit clairement que la volonté de Dieu soit un, que nous proclamions son nom à travers toute la terre, que nous agissions comme des sacrifices vivants, parce que c'est ça les vrais actes de louange, que nous nous repentions de notre péché et nous lui fassions confiance en Christ, que vous et moi deveniez enfants de Dieu, que vous et moi faisions de bonnes choses, de bonnes œuvres, que vous et moi soyons sanctifiés et Dieu dit qu'il va nous enseigner, qu'il veut nous enseigner à faire sa volonté. Donc ça, c'est la première étape, c'est d'être dans la parole de Dieu et d'entendre ce qu'il veut nous dire par rapport à sa volonté. Et la deuxième étape est de marcher avec Jésus. Comment est-ce que je peux connaître la volonté de Dieu si je ne marche pas avec Jésus? À garder le rythme derrière lui, sur le voyage où il veut m'emmener et que je suive avec obéissance. C'est tellement important de marcher avec Jésus et ça signifie passer du temps avec lui, dans sa parole, parler avec lui, dans la prière. Plus on passe de temps avec lui, dans la parole de Dieu, en prière avec lui, le plus nous serons vraiment synchronisés avec lui, alors qu'il nous emmène sur ce chemin de sa volonté pour notre vie. Alors si vous marchez avec Jésus, la volonté de Dieu, elle peut être découverte, elle peut être ressentie dans Romains 12, versets 1 et 2. On apprend qu'on peut tester ce que Dieu veut pour nous, son désir agréable pour nous. Romains 12, 1, 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce passage nous donne une séquence importante que les enfants de Dieu refusent de se conformer au monde. Et au lieu de cela, ils s'autorisent à être transformés par le Saint-Esprit. Et ensuite, alors que nos intelligences sont renouvelées par Dieu, alors l'enfant de Dieu sera capable de connaître la volonté parfaite de Dieu. Alors soyez transformés et comprenez sa volonté. Ensuite, vous serez capable de discerner sa volonté et d'agir comme des sacrifices vivants. Et alors que nous cherchons la volonté de Dieu, nous devrions vraiment nous assurer que ce que nous envisageons, ce n'est pas quelque chose que la Bible interdit. Par exemple, si vous pensez à voler quelque chose, eh bien, vous savez que la Bible nous enseigne de ne pas voler. Nous devons aussi nous assurer que ce que nous considérons, ce que nous envisageons de faire, va glorifier Dieu, que nous glorifions Dieu dans tout ce que nous faisons. La louange, ce n'est pas seulement le dimanche matin, c'est une manière de vivre. Nous voulons que chaque chose que nous faisons, nos conversations, rende gloire à Dieu dans toutes circonstances. Et connaître la volonté de Dieu, c'est parfois difficile parce que ça requiert de la patience. C'est naturel de vouloir connaître la volonté de Dieu tout d'un coup, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il se révèle un petit peu, petit à petit, à nous. Et c'est à nous d'être obéissants, d'être confiants et de le suivre une étape à la fois. La chose importante, c'est que quand nous attendons sa guidance, ses directions qui viennent de lui, c'est important d'être confiant. Et dans Jérémie, tous ceux qui savent le bien qu'ils doivent faire mais ne le font pas, c'est alors un péché pour eux. Donc si on dit, j'ai besoin que quelqu'un fasse quelque chose de bien pour moi, par exemple, là, j'aurais besoin d'un verre d'eau, s'il vous plaît. Merci, Scott. Scott est toujours le premier à se lever. Il est en feu pour le Seigneur. Alors très souvent, on veut que Dieu nous donne des choses spécifiques, des choses précises. Où est-ce que je devrais travailler? Où est-ce que je devrais vivre? Qui est-ce que je devrais épouser? Quelle voiture je devrais acheter? Mais ce qu'il y a, c'est que Dieu nous permet de faire des choix quand même. Mais si on cède à lui et si on demeure en lui, il nous empêche de faire les mauvais choix. Il ne donne pas toujours la réponse, mais il nous empêche de faire les mauvais choix. Dans Actes, chapitre 16, 6 à 7, Paul et ses compagnons traversent la... Actes 16, 6 à 7. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galicie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Et en fait, plus on connaît une personne, plus on devient proche de lui ou elle, plus on connaît ses désirs. Par exemple, les enfants qui jouent, font du football. Si la balle va sur la rue, la plupart des enfants vont aller courir sur la rue. Mais certains d'entre eux vont se dire « Ah non, mon père ne veut pas que je cours après le ballon quand il va sur la route. Alors, je ne vais pas le faire. » Donc, quand on veut suivre quelqu'un comme cet enfant, on doit se rappeler de ce que Jésus veut pour nous, de ce qu'il nous a déjà enseigné. Alors que nous marchons avec Dieu, il faut que nous fassions confiance à son esprit. Et alors, comme l'enfant qui se rappelle des commandements de son père, on peut se rappeler de la volonté de Dieu au moment où nous en avons besoin. Dans Jean chapitre 15, verset 5, il est écrit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc si vous et moi, nous demeurons en lui, nous habitons en lui, nous allons porter beaucoup de fruits. » C'était vraiment une des clés pour connaître la volonté de Dieu. Et tout ça, c'est de maintenir notre relation avec Jésus. C'est ça le secret. C'est à travers cette relation proche avec Jésus qu'on peut discerner sa volonté. Vous et moi avons besoin de marcher avec Jésus, dans une manière de marcher avec Jésus chaque jour de manière obéissante et de le suivre, de le suivre où qu'il nous amène. Et si nous marchons proche avec Dieu, en étant proche avec Dieu, Dieu va nous mettre son désir dans nos cœurs. La clé, c'est de désirer ce que lui désire et ne pas suivre nos propres désirs. Son désir à lui, son désir divin, et pas les désirs humains. Et dans le psaume 37, verset 4, fais de l'éternel tes délices.
Donnera ce que ton cœur désire. Amen.
Alors, marcher avec Jésus et passer du temps avec lui dans sa parole, à communiquer avec lui dans la prière, servir et agir comme des sacrifices vivants qui sont saints et agréables à Dieu, être occupé à faire le bien et nous savons que nous devons le faire, obéir à sa parole et faire confiance à son esprit, ça c'est demeurer en lui et désirer ce que lui a à cœur et pas ce que nous voulons. Et la troisième étape, c'est de chercher un conseil divin. C'est encore une des clés pour discerner la volonté de Dieu pour nos vies et la vie de l'Église. C'est chercher un conseil divin auprès d'autres croyants, des amis, des conseillers, des anciens, des pasteurs, des enseignants. Et dans le livre des Proverbes, il y a plein de références à propos de chercher des conseils divins. Par manque de guide, les nations tombent. La victoire se gagne à travers les conseillers. Proverbe 12:15. La voie qu'emprunte le fou est droite à ses yeux, mais il est sage d'écouter les conseils. Proverbe 19:21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Combien d'entre vous suivent les conseils de leurs amis chrétiens? À l'Église comme à l'extérieur de l'Église, beaucoup d'entre nous le font. Et c'est vraiment une des clés, c'est d'écouter et d'accepter les conseils que Dieu met sur le cœur des autres pour notre vie ou pour notre vie d'Église. Écoutez les conseils, acceptez la discipline. Écoute les conseils et accepte l'instruction. Ainsi tu seras sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan d'Éternel qui s'accomplit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Et dans Proverbe 28, qui c'est qui croit en eux ? Hein, ceux qui croient en eux, ce sont des idiots. Ah, personne ne croit en eux, c'est bien. Nous avons une église où il n'y a aucune personne qui fait ces idioties. Bravo, les gars. Parce qu'il est dit, celui qui a confiance en son propre cœur est stupide, mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré. Quand Brigitte et moi sommes devenus chrétiens il y a 23 ans, en tant que jeunes chrétiens qui vivaient en Irlande avec notre fille Mélanie, la plus grande, qui avait 7 ans, et quand on a 7 ans en Irlande, on fait la première communion. Donc toute notre église se préparait pour la communion, et nous savions dans nos cœurs que ce n'était pas bon, que ce n'était pas juste. Mais notre enfant était né en France, elle parlait français, elle était déjà un peu différente, elle avait déjà un peu de mal à l'église parce qu'elle était différente. Et on ne voulait pas que ce soit plus difficile pour elle, on ne voulait pas la marginaliser. Donc, on était face à un vrai dilemme. Seigneur, on sait que ce n'est pas vraiment bien, mais on ne veut pas faire souffrir notre fille. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On a téléphoné à notre église, il est venu, et il a partagé de la parole de Dieu avec nous. Et on s'est dit, mais pasteur, qu'est-ce qu'on fait ? Et il a dit, mais vous devez prier. Priez avec Dieu. Et lui va vous dire quoi faire. Et en tant que jeunes chrétiens, nous étions là. Mais il a pas un fax. Dieu va nous dire comment faire. Dieu va m'appeler ou comment ça va se passer. Et nous étions vraiment dans la confusion. Et le jour suivant, Brigitte a laissé les enfants à l'école. Et Mélanie, il y avait une feuille de papier que nous devons signer. Comme quoi nous voulions élever nos enfants dans la foi catholique. Et nous étions vraiment face à un dilemme. Nous ne savions vraiment pas quoi faire par rapport à ça. Et Mélanie a dit à Brigitte, « Oh maman, on doit rendre ce papier où il faut signer. » Mélanie était contente d'aller à l'école, mais Brigitte était là, « Oui, sûr, oui, je sais, il faut signer ce papier qui dit ça, mais... » Et Mélanie a dit à sa maman, à 7 ans, elle a dit, « Maman, je ferai tout ce que tu voudrais, mais j'ai Jésus dans mon cœur, et c'est tout ce qui compte. » Elle avait 7 ans. Et Dieu l'a utilisée, elle, pour nous parler à nous, pour nous montrer quelle était sa volonté à ce moment-là. Et je suis ému, désolé quand j'en parle, mais c'était il y a 23 ans. Et Dieu a parlé à travers elle. Si on est à l'écoute, on peut l'entendre. C'est vraiment merveilleux. Donc finalement, on n'avait plus de problème. Brigitte a dit à Mélanie, « Ok, dis à ton prof de venir nous parler après l'école. » Mais Mélanie était prête à faire la communion, tout allait bien. Et donc elle a eu une belle paire de chaussures, une belle robe pour ce jour-là. Donc elle a pu être comme tout le monde. Mais c'était incroyable comment Dieu a parlé. Nous, on avait toutes ces choses en tant que parents, on était dans la confusion la plus totale, et tout d'un coup, c'est devenu tellement clair. Et ça nous amène à l'étape numéro 4, donc on a vu les trois premières étapes de discerner la volonté de Dieu. On doit être enraciné dans la parole de Dieu, marcher avec Jésus et demeurer en lui, et chercher les conseils qui viennent de Dieu. Et la quatrième étape, c'est la prière. Et c'est une autre clé pour discerner la volonté de Dieu dans vos vies. Demandez à Dieu de vous guider dans ses voies. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 7, il est dit, « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, toquez et on vous ouvrira la porte. » La prière, c'est la communication qui nous permet de parler à Dieu, qui nous permet de parler avec Dieu. Et très souvent, dans notre vie de prière, on prie à Dieu, mais on oublie de parler à Dieu. En fait, c'est un procédé qui va dans les deux sens, on parle avec lui. Donc dans nos prières, il faut qu'on soit ouvert à son esprit. Il faut qu'on lui demande vraiment de nous guider et de nous parler, de nous montrer ses voies. Et je sais que certains d'entre vous ont déjà entendu l'histoire du prophète Samuel. dans 1 Samuel 3, on apprend que Samuel a fait son ministère auprès des fils d'Élie et que Dieu appelle Samuel 3 fois dans son sommeil. Et Samuel pensait que c'était son maître qui l'appelait, mais quand il a vraiment réalisé que c'était Dieu qui lui parlait dans son sommeil, et Samuel, dans 1 Samuel 3, verset 10, « L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Dieu ne va pas nous parler de la même manière qu'il a parlé à Samuel, probablement pas, mais nous devons être ouverts à sa parole, à lui laisser de la place. Il ne faut pas qu'on fasse la liste de toutes les choses dont on a besoin, mais il faut qu'on soit vraiment avec lui et qu'on partage quelque chose avec lui et laisser la place à son esprit pour venir nous guider, à parler à nos cœurs. Tout comme il a utilisé notre fille de 7 ans pour nous parler il y a 23 ans. Et c'est vraiment le besoin d'être silencieux parfois devant lui et d'être à l'écoute. Et de dire comme Samuel, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et on peut aussi, dans Psaume 143, on peut aussi partager cette prière. Verset 10. « Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. » Il faut vraiment qu'on recherche sa volonté de manière sincère pour qu'il nous guide dans ce qui est de mieux pour nous et pour notre Église. Si on n'a pas une vie de prière avec Dieu, comment est-ce qu'on va connaître sa volonté? Si vous et moi, nous prions souvent, mais qu'on ne l'écoute pas, quand il nous communique des choses, comment est-ce qu'on connaîtra sa volonté? Si nous sommes dans une communication constante avec Dieu et que nous marchons avec Dieu, que nous faisons confiance au Seigneur, que nous l'écoutons, il nous guidera vers les désirs de son cœur. Amen. Alors pour conclure, pour discerner la volonté de Dieu, vous et moi devons être 1. Enracinés dans la parole de Dieu, 2. Marcher avec Jésus et demeurer en lui, 3. Nous devons rechercher des conseils qui viennent de Dieu auprès des autres chrétiens, et nous devons être à genoux, à écouter Dieu en prière. Donc cela conclut le message que j'avais sur le cœur et que je voulais vous partager ce matin. Et je voudrais vraiment vous inviter à maintenant incliner vos têtes en prière.